Chapitre 3. Le jeudi 3 février, sur la place d'Espagne, comme il avait été convenu au concert, André la rencontra devant l'étalage d'un orfèvre antiquaire avec Delphine. À peine eut-elle entendu son salut qu'elle se retourna et une flamme colora sa pâleur. Ils regardèrent ensemble les joyaux du XVIIIe siècle, les boucles et les diadèmes de strass, les épingles et les montres émaillées, les tabatières d'or, d'ivoire, d'écailles, tous ces jolis bibelots d'un siècle mort qui, dans la limpide clarté matinale, avaient un aspect d'harmonieuse richesse. Autour d'eux, les marchands de fleurs, avec leurs paniers, allaient, offrant les jonquilles jaunes et blanches, les violettes doubles, de longues branches d'amandier. Un souffle de printemps passait dans l'air. La colonne de l'Immaculée Conception montait, agile dans le soleil, comme une tige, avec la Rosa Mystica au sommet. La barcaccia a été chargée de diamants. L'escalier de la Trinité ouvrait joyeusement ses bras vers l'église de Charles VIII, dont les deux tours se dressaient dans un azur ennobli par les nuages dans le vieux ciel du Piranèse. « Quelle merveille !» s'écria la siennoise. « Comme vous avez raison d'être amoureux de Rome !»« Oh, vous ne la connaissez pas encore !» répondit André. « Je voudrais être votre guide !» Elle sourit. Accomplir avec vous, ce printemps, un pèlerinage sentimental. Elle souriait et toute sa personne avait pris une apparence moins triste, moins grave. Son costume du matin avait une sombre élégance, mais il révélait la fine ingéniosité d'un goût expert aux choses de l'art, aux délicatesses de la couleur. Sa jaquette croisée, d'un drap gris tirant un peu sur le vert et garnie de loutre au bord, s'ouvrait sur un gilet de loutre. Et comme la coupe était d'un style exquis, l'accord de ces deux tons, de ce gris indescriptible et de ce fauve opulent, était une joie pour les yeux. Elle demanda « Où êtes-vous allé hier soir ?»« Je suis sorti du concert quelques minutes après vous. Je suis rentré à la maison et j'y suis resté parce que j'ai cru y sentir la présence de votre esprit. J'ai beaucoup pensé. N'avez-vous pas senti ma pensée ?» « Non, je ne l'ai pas senti. J'ai eu, moi, une soirée sombre, sans savoir pourquoi. Il me semblait que j'étais si seule. » La comtesse de Lucco l'y passa dans un dog-car conduisant un cheval rouan. Julie Mocchetto, à pied, passa en compagnie de Jules Musellar. Isotta Chelsea y passa. André saluait. Marie-Thérèse lui demandait les noms de ces dames. Celui de la Mocchetto ne fut pas nouveau pour elle. Elle se rappela le jour où Françoise l'avait prononcé en voyant le Saint-Michel du Pérugin lorsqu'André feuilletait ses dessins à Schifanoia. Et elle suivit du regard l'ancien aimé de son aimé. Une inquiétude l'étreignait. Tout ce qui rattachait André à sa vie antérieure lui donnait ombrage. Elle aurait voulu que cette vie, ignorée d'elle, n'eût jamais existé. Elle aurait voulu l'abolir toute de la mémoire de cet homme qui s'y était plongé si avidement, qui s'en était retiré avec tant de lassitude, tant de pertes, tant de blessures. Vivre uniquement en vous et pour vous, sans hier et sans demain, sans aucune autre attache, sans aucune autre préférence, hors du monde. Voilà ce qu'il avait dit. Oh, quel rêve ! Et une inquiétude différente étreignait André. Ce serait bientôt l'heure du déjeuner auquel l'avait invité la princesse de Ferentino. « De quel côté vous dirigez-vous » demanda-t-il. « Delphine et moi, nous avons pris du thé et des sandwichs chez Nazari avec l'intention de profiter du soleil. Nous monterons au Pincio et nous visiterons la Villa Médicis. Si vous voulez nous accompagner... » Il eut une pénible hésitation. Le Pincio, la Villa Médicis, par une après-midi de février... Avec elle. Mais il ne pouvait pas manquer à l'invitation. Et d'ailleurs, il éprouvait une anxieuse curiosité de revoir Hélène après la scène de la veille. Car il était bien allé au palais Angeliere, mais elle n'y avait point paru. Il dit avec un air désolé « Quelle malchance ! Je suis invité à déjeuner et je ne puis disposer que d'un quart d'heure. J'ai accepté cette invitation la semaine dernière. » Mais si j'avais su, j'aurais trouvé un moyen pour me délier de tout engagement. Quelle malchance ! Allez, ne perdez pas de temps, vous vous feriez attendre. Il regarda sa montre. « Je puis encore vous accompagner un peu. »«
Maman, dit Delphine, montons par l'escalier. J'y suis montée hier avec Miss Dorothée. Si tu voyais !»
Comme ils étaient dans le voisinage du babouino, ils tournèrent pour traverser la place. Un enfant les suivait, s'entêtant à leur offrir une grande branche d'amandier qu'André acheta et offrit à Delphine. Des dames blondes sortaient des hôtels avec le Baedeker rouge à la main. Les pesantes voitures de louage à deux chevaux se croisaient avec un miroitement métallique sur leurs garnitures à la vieille mode. Les marchands de fleurs tendaient vers les étrangères leurs paniers combles en vociférant à l'envi. « Faites-moi la promesse, dit-il à Marie en posant le pied sur la première marche, faites-moi la promesse que vous n'entrerez pas à la Villa Médicis sans moi. Pour aujourd'hui, renoncez à cette visite. Je vous en prie. » Elle semblait préoccupée d'une pensée triste. Elle dit « J'y renoncerai. Merci. » Devant eux s'élevait l'escalier triomphal dont la pierre échauffée exhalait une douce tiédeur, et cette pierre avait un ton d'argenterie ancienne qui rappelait celui des fontaines de Skiphanoïa. Delphine les précédait en courant avec sa branche fleurie, et au vent de la course, quelques menus pétales rosés s'envolaient comme des papillons. Un regret aigu perça le cœur du jeune homme. Il se figura toutes les douceurs d'une promenade sentimentale dans les sentiers des Médicis, sous les buis muets, à cette première heure de l'après-midi.
« Chez qui allez-vous ? » demanda Marie après un intervalle de silence.
« Chez la vieille princesse Alberoni, répondit-il, une table catholique. » Il mentait encore une fois, car un instinct l'avertissait que, peut-être, le nom de la Ferentino éveillerait un soupçon chez Marie.
« Alors, adieu, » ajouta-t-elle en lui tendant la main.
« Non, je vais jusqu'à la place, j'ai ma voiture qui m'y attend. « Regardez, voici la maison que j'habite. » Et il désigna le palais Zuccari, la douce retraite inondée de soleil qui faisait penser à une serre étrange, devenue opaque et brune par l'effet du temps. Marie regarda. « Maintenant que vous la connaissez, y viendrez-vous quelquefois, en esprit ?»«
En esprit, toujours. » »«
Avant samedi, ne pourrais-je pas vous revoir ?»
« Ce sera difficile. »
Ils se quittèrent. Marie, avec Delphine, s'engagea dans l'avenue bordée d'arbres. André monta dans sa voiture et s'éloigna par la rue Grégorienne. Il arriva chez la princesse de Ferentino avec quelques minutes de retard. Il présenta ses excuses. Hélène était là, en compagnie de son mari. Le déjeuner fut servi dans une salle à manger très gaie, décoré de tapisseries barberines représentant des bambochades dans le style de Pierre Loire. Au milieu de ce beau décor grotesque du XVIIe siècle, commença un feu scintillant et pétillant de médisance. Les trois dames avaient l'esprit joyeux et prompt. Barbarella Vitti riait de son vibrant rire masculin, renversant un peu en arrière sa belle tête d'éphèbe, et ses yeux noirs se rencontraient trop souvent avec les yeux verts de la princesse. Hélène faisait des mots avec un entrain extraordinaire, et elle semblait à André si distante, si étrangère, si insoucieuse, qu'il eut presque un doute. « Ai-je donc rêvé hier soir ?» Ludovic, Barbarisi et le prince de Ferentino excitaient les dames. Le marquis de Montedcombe se chargeait d'ennuyer son jeune ami en lui demandant des renseignements sur les ventes prochaines et en lui parlant d'une édition rarissime du métamorphosé homme d'Apulée qu'il avait acquise quelques jours auparavant pour 1520 francs, l'édition de Rome, 1469, in folio. Il s'interrompait de temps à autre pour observer un geste de Barbarella. Et alors passait dans ses yeux un regard de maniaque et dans ses mains odieuses un tremblement singulier. L'irritation, le dégoût, l'agacement grandirent chez Sperelli à tel point qu'il ne réussissait plus à les dissimuler.
« Vous êtes de mauvaise humeur, Ugenta, » lui dit la princesse de Ferentino.
« Un peu, Maleco est malade. »
Alors Barbarise, il importuna de mille questions sur la maladie du cheval. Et puis Montedcombe recommença son histoire du métamorphoséon. et à Ferentino dit en riant « Tu sais, Ludovic, hier au concert du Quintet, nous l'avons surpris flirtant avec une inconnue. »«
C'est vrai, » fit Hélène.
« Une inconnue ? » s'écria Ludovic.
« Oui, mais tu pourras sans doute nous donner des renseignements. C'est la femme du nouveau ministre de Guatemala. »«
Ah, je sais. » »«
Eh bien ?»
Pour le moment, je ne connais que le ministre. Je le vois jouer au cercle toutes les nuits.
Dites, Huguette, a-t-elle été déjà reçue par la reine?
Je l'ignore, princesse, repartit André avec un peu d'impatience dans la voix. Ce caquetage lui devenait insupportable, et la gaieté d'Hélène lui donnait une horrible torture, et le voisinage du mari le dégoûtait plus que jamais. S'il était en colère, c'était moins contre ces gens-là que contre lui-même. Au fond de son irritation s'agitait un regret confus de la félicité qu'il avait refusée tout à l'heure. Son cœur, déçu et offensé par l'attitude cruelle d'Hélène, se retournait vers l'autre avec un repentir poignant. Et il la voyait, pensive, dans l'allée solitaire, plus belle et plus noble que jamais. La princesse se leva, tous se levèrent pour passer dans le salon voisin. Barbarelle accourut ouvrir le piano qui disparaissait sous un vaste caparaçon ancien de velours rouge broché d'ormate. Et elle se mit à fredonner la tarentelle de Bizet dédiée à Christine Nilsson. Hélène et Ève se penchaient sur elle pour lire la musique. En arrière, Ludovic se tenait debout, fumant une cigarette. Le prince avait disparu. Mais Lord Asphyl ne lâchait pas André. Il avait attiré dans l'embrasure d'une fenêtre et lui parlait de certaines petites coupes d'Urbagne à sujets érotiques dont il avait fait l'acquisition à la vente du chevalier d'Aville. Et cette voix criarde aux fastidieuses intonations interrogatives et ses gestes qui indiquaient les dimensions des coupes et son regard tantôt mort et tantôt perçant sous un énorme front convexe, bref, tout cet extérieur odieux était pour André un supplice si intolérable qu'il en serrait les dents comme un patient sous le couteau du chirurgien. Il n'avait plus qu'un seul désir, s'en aller. Il rêvait de courir au Pincho. Il espérait y retrouver Marie et la mener à la Villa Médicis. Il pouvait être 2 heures. Par la fenêtre, il apercevait la corniche de la maison d'en face, resplendissante de soleil dans le ciel bleu. En se retournant, il voyait au piano le groupe des jeunes femmes dans la lueur vermeille qu'un faisceau de rayons faisait jaillir du caparaçon de velours. À cette lueur se mêlait la fumée légère de la cigarette. Et les bavardages, les rires, s'entremêlaient aux accords que les doigts de Barbarella Vitti cherchaient au hasard sur les touches. Ludovic dit tout bas quelques mots à l'oreille de sa cousine. Et la cousine, sans doute, en fit part à ses amis, car il y eut de nouveau un brouhaha clair et sonore, comme d'un collier de perles qui se défilerait sur un bassin d'argent. Et Barbarelle reprit l'allégretto de Bizet à mi-voix. « Tralala, le papillon s'est envolé, tralala !» André attendait le moment propice pour interrompre le discours de Mount Edgecumbe et se retirer. Mais le collectionneur débitait une série de périodes liées les unes aux autres, sans intervalle, sans arrêt. Un arrêt aurait sauvé le martyr, mais cet arrêt ne venait pas et l'anxiété de la victime croissait de minute en minute. « Oui, le papillon s'est envolé. Oui, ah ah, ah 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 !» André regarda sa montre. « Déjà 2 heures. Excusez-moi, marquis, il faut que je parte. » Et s'approchant du groupe, « Excusez-moi, princesse, à 2 heures, j'ai dans mon écurie une consultation de vétérinaire. » Il prit congé en grande hâte. Hélène lui offrit le bout des doigts serrés. Barbarelle lui offrit un fondant et lui dit « Portez-le de ma part à ce pauvre Maleko. » Ludovic voulait l'accompagner. « Non, reste !» André s'inclina et sortit. Il descendit l'escalier en un clin d'œil. Il sauta dans sa voiture, criant au cocher « Vite, au Pincho !» Il était envahi par un désir fou de rejoindre Marie Ferrel, de retrouver ce bonheur auquel il avait renoncé naguère. Le trot serré de ses chevaux ne lui semblait pas assez rapide. Il regardait anxieusement pour voir apparaître enfin la Trinité des Monts, l'avenue bordée d'arbres, les grilles.
La voiture franchit les grilles. Il ordonna au cocher de modérer l'allure des chevaux et de parcourir toutes les allées. Son cœur tressautait chaque fois que, de loin, entre les arbres, apparaissait une figure de femme. Mais cette recherche fut vaine. Il descendit sur l'esplanade. Il s'engagea dans les petites allées interdites aux voitures. Il explora tous les coins sans succès. Les personnes assises sur les bancs le suivaient des yeux avec curiosité, car son inquiétude était manifeste. Comme la villa Borghese était ouverte, le Pinch reposait tranquille sous le sourire languissant de février. De rares voitures et de rares piétons interrompaient la paix de la colline. Les arbres encore nus, blanchâtres, parfois un peu violets, dressaient leurs rameaux dans un ciel délicat, parsemé de toiles d'araignées très fines que le vent déchirait et détruisait de son souffle. Les pins, les cyprès, tous les arbres verts prenaient un peu de la commune pâleur, se ternissaient, se décoloraient, se fondaient dans la monotonie commune. La diversité des troncs et la hachure des rameaux sur le ciel rendaient plus solennelle l'uniformité des Hermès. Ne flottait-il pas encore dans cette atmosphère quelque chose de la tristesse de Donna Marie? Appuyé à la grille de la Villa Médicis, André resta plusieurs minutes comme écrasé sous un poids énorme.